à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews, expériences radiophoniques. Et retrouvez toutes les émissions en podcast sur le site internet labodessavoirs.fr.
Vos synapses, poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
Bonjour à tous et bienvenue au Labo des Savoirs, émission spéciale Macro-Ondes, troisième du nom. Nous nous trouvons dans le hall du studio théâtre de Nantes où se joue actuellement la pièce Le Pas de Bem. Des actions non violentes conduites par Gandhi pour dénoncer les lois injustes de l'empire colonial britannique en Inde, au mouvement des droits civiques dirigé par Martin Luther King aux États-Unis pour abolir les lois de ségrégation raciale. Les actions de désobéissance civile ont servi au cours de l'histoire des causes diverses et variées. Bem est-il de ceux qui enfreignent pour servir le collectif ? Bon élève, curieux et participant volontiers à l'activité de sa classe, il rend toujours, pour une raison que l'on ignore, copie blanche. Résistance passive, refus sans agressivité, son pas consiste à ne pas faire ce dont on le sait pourtant capable. Le refus est-il un acte de désobéissance ? Comment cet acte, a priori anodin, impacte-t-il nos semblables ? Le pas de Bem est une fresque théâtrale donnant à réfléchir sur notre capacité à dire non et jusqu'où celle-ci peut nous mener. De l'objection à l'action contestataire, où commence la désobéissance civile ? C'est le thème de cette émission du Labo des Savoirs. À mes côtés, pour creuser un peu plus les interrogations de cette pièce qui n'en manque pas, Marie David, vous êtes enseignante à l'ESPE, l'école supérieure du professorat et de l'éducation de Nantes. Votre domaine, c'est la sociologie de l'école, du travail et de la déviance. Bonjour.
Bonjour.
Pierre Leroux, vous êtes professeur en sciences de l'information et de la communication, docteur en sciences politiques. Bonjour.
Bonjour.
Et Adrien Béal, auteur et metteur en scène de la pièce Le Pas de Bem, dont il est, on l'aura compris, question aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à tous les trois au Labo des Savoirs. Avec moi également Pauline Verbaenen. Désobéissance et transgression légale vont-elles de pair ?
Bien souvent, oui. Et ça amène la question de frontière entre légalité et légitimité.
Pierre Charrier, vous avez envie pas forcément de désobéir, mais de vous offusquer peut-être.
Eh oui, j'en ai gros.
Et Cathy Dogon, qui s'est intéressée aux objecteurs de conscience.
C'était un gros débat dans les années 80, et vu que le service militaire n'est plus en cours en ce moment, évidemment, on a oublié ce combat-là.
Rien d'audacieux n'existe sans la désobéissance à des règles, disait l'écrivain et essayiste français Jean Cocteau. Les principes de la désobéissance civile ont été exposés pour la première fois en 1849 par l'écrivain américain Henri David Thoreau dans son essai éponyme. Cet ouvrage faisait suite à son refus de payer un impôt qui devait financer la guerre contre le Mexique.
Je suis face à un truc là, si tu savais. Il y a un élève dans une de mes classes qui s'appelle Bem, et depuis le début de l'année, à chaque fois qu'il me rend un devoir en classe, la copie est blanche, blanche, tu vois. Depuis le début de l'année, est-ce qu'il a les connaissances ? Il les a. Il peut le faire. Imagine ça, il peut le faire, et il le fait pas, mais imagine ça. C'est ça, que je dis.
Premier extrait de la pièce Le Pas de Bem. Adrien Béal, est-ce qu'on peut considérer que le protagoniste, Bem donc, est un audacieux ?
Si c'en est un, peut-être que c'en est un malgré lui en tout cas. C'est toute la, peut-être la particularité de sa position, c'est que c'est une position qui n'est pas choisie.
C'est-à-dire qu'il agit en sa propre conscience, mais qu'il n'a pas conscience d'être dans l'objection ? Et dans la pièce, vous demandez aussi, l'inconscient a-t-il valeur d'excuse ?
Oui, et peut-être même qu'il est... Michel Vinaver, qui est l'auteur du roman L'Objecteur, dont on s'est inspiré pour faire le spectacle, justement, titre son roman L'Objecteur et pas L'Objecteur de conscience. Et ce qu'il dit souvent, qui je trouve illustre bien, c'est que par exemple, ce geste, donc... dans le roman de Vinaver qui se passe dans un contexte militaire ou nous dans le spectacle qui se passe dans un contexte scolaire, c'est pas quelque chose qu'il fait mais c'est quelque chose qui lui arrive.
Marie-David, à partir de quel âge est-ce qu'on entre dans la désobéissance consciente, si je puis dire ? Parce que quand on dit non à 6 ans, c'est pas pareil que quand on dit non à 16 ans.
Non, sans doute.
je crois pas, moi, que la pièce, enfin, je fais une hypothèse en tant que spectatrice, je crois pas que la pièce permette non plus de répondre à la question de la désobéissance consciente, puisque finalement, il me semble que ça parle beaucoup moins de celui qui refuse, de tous ceux à qui ça pose problème. Enfin, on n'est pas dans la conscience des individus pour savoir à quel moment il faut un refus conscient ou une désobéissance consciente. Donc on peut aussi supposer que le refus il est conscient chez les tout petits, hein. Mais à mon avis le regard de la pièce, pour l'interprétation que j'en fais, c'est plutôt de regarder tous les autres et tous les problèmes que ça leur pose.
Alors justement, dans la pièce, Bem à aucun moment finalement ne cherche à entraîner ses camarades dans son mouvement. Cette objection, est-ce qu'elle fait forcément de nous des porte-drapeaux, Pierre Leroux?
Ce qu'on voit dans la pièce et qui est vraiment très intéressant, c'est la force des faibles, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est introduit dans un fonctionnement social ordinaire et il y a un grain de sable. Et ce grain de sable, il est minime, puisque ne pas faire, c'est-à-dire rendre une copie blanche, c'est très peu. Et ce qui est très intéressant dans la pièce, ce sont les conséquences qu'on voit et qui montrent aussi, donc on ne peut pas dire, puisque ce n'est pas un mouvement collectif qui s'amorce et on ne voit pas du tout ça dans la pièce, mais on ne peut pas dire qu'il s'agit au sens strict de désobéissance civile, mais on remarque que ça pourrait être à l'origine de ça. C'est-à-dire que ça pourrait être à l'origine d'un geste anodin, entre guillemets, c'est-à-dire une petite chose qui met en cause, et la pièce le montre merveilleusement, hein, met en cause un système scolaire. Le système des notes, mais pas seulement. Le rapport des parents à l'éducation, enfin, on le voit dans toutes les nombreuses, je veux dire, scénettes, dans le sens où il y a un focus de fait tour à tour sur des groupes de gens qui discutent entre eux et qui ont chacun leur problématique, mais cette problématique elle revient de ce petit geste, et ce petit geste il est rien du tout, quoi. Enfin, la copie blanche, ça met en cause la notation, ça met en cause ce grand système qu'on n'interroge pas souvent, en fait, ce grand système de l'école, la place de l'élève là-dedans, qui est un peu broyée par le système des notes. C'est-à-dire, pourvu qu'on mette une note, et certains interlocuteurs dans la pièce le disent, il faut que ça fonctionne. Hein, c'est-à-dire, il faut que ça continue de fonctionner. Et la désobéissance civile minime, hein, cette petite chose, elle est le grain de sable introduit dans cette merveilleuse machine qui fonctionne toute seule pour tout le monde.
Donc, pas si minime que ça, finalement, cette désobéissance.
Justement, on ne sait pas, puisque la pièce ne traite pas de ça, mais on peut être à l'origine d'un mouvement collectif qui s'amorce dans une classe, dans une petite chose. Faut pas oublier, pour un exemple historique, hein, faut pas oublier que mai 68 est parti d'une histoire qui disait que les garçons n'avaient pas le droit d'aller rendre visite aux filles dans leur CTU. Et bon, je dis pas que c'est devenu mai 68 comme ça d'un seul coup, mais une petite chose et ce refus de cette loi un peu imbécile, hein, parce que c'était bon, à l'époque la majorité était à 21 ans, mais c'est cette petite chose là qui dit mais on refuse ça, c'est pas une grande question, et ça en entraîne beaucoup d'autres.
On peut dire que refuser est systématiquement un acte politique ou pas?
Dès lors qu'il y a une conscience, dès lors qu'on veut y donner une publicité, hein, rendre public son refus, c'est pas comme, je refuse de payer une amende parce que je me suis mal stationné, et ça n'a rien de la désobéissance. Je fais un mouvement contre le fait, collectivement, je lui donne une publicité, et là on amorce quelque chose qui va être une mobilisation, qui va avoir une forme de revendication, sans violence aussi. Hein, ça compte beaucoup dans la désobéissance civile, c'est un des éléments forts. Et bien là on peut dire qu'on amorce quelque chose. Mais il y a quand même, on peut pas considérer que toute désobéissance est une désobéissance civile, dans le sens où elle porte ou elle ne porte pas des revendications globales pour le bien commun.
En refusant d'accomplir ses obligations militaires, en s'appuyant sur des opinions philosophiques, politiques, morales ou religieuses qui prônent le respect de la vie humaine, les objecteurs de conscience appliquent les principes de la désobéissance civile. Cathy Dogon en a rencontré un.
Patrice Bourdon, qui a voulu être objecteur de conscience, devait réaliser son service militaire en 83 et il y a renoncé.
Monsieur le ministre, j'ai l'honneur de vous faire connaître ma résolution de ne pas accomplir mon service militaire et d'effectuer un service strictement civil. Je me demande donc à bénéficier des articles L41 et suivants de la loi numéro 71424 du 10 juin 1971 en vue d'obtenir le statut d'objecteur de conscience. Les raisons qui me poussent à refuser mon service militaire sont les suivantes. Je ne veux pas tuer et apprendre à tuer mon semblable. Nous vivons dans un monde où la violence prédomine, les guerres, les attentats, les agressions sont des réalités qui aliènent quotidiennement les êtres humains. Je me refuse totalement à entrer dans cet engrenage en apprenant la violence, en me préparant à tuer ou à réagir violemment. Je suis convaincu qu'il existe d'autres alternatives qui aideront les hommes à vivre en parfaite harmonie. J'envisage une vie basée sur le respect de l'individu et de toute forme de vie. Je pense que la non-violence et le pacifisme sont des moyens qui nous permettront de survivre, qui nous aideront à regarder, aimer et comprendre nos semblables sans faire de différence raciale, physique, religieuse ou politique. C'est donc cette position philosophique et morale qui me pousse à refuser la guerre et a fortiori à la préparer. Je vous serai gré, monsieur le ministre, de prendre en compte mes considérations et de recevoir mes salutations respectueuses. C'est une lettre qui est datée du 4 juillet 1982 que j'adresse au ministre de la Défense nationale. Objectif, c'est vraiment un rapport de soi à soi. C'est vraiment pour moi... quelque chose qui va me confronter à mes valeurs et aux limites que je peux accepter dans le fait de contourner un peu mes valeurs. 1983, c'est l'année où je, entre guillemets, j'entre officiellement en objection de conscience, puisque j'ai commencé en mai 83 et terminé en mai 85. Mais le jeune homme de mai 83 était construit sur 5-6 années précédentes de militantisme.
Bien que les paysans du Larzac aient rappelé le caractère apolitique de leur action, il est de fait qu'ils ont trouvé depuis des mois des supporters zélés, en particulier dans les rangs des mouvements gauchistes ou pacifistes.
J'étais pendant 2 ans dans une structure qui existe toujours, qui s'appelle les Francas. C'est une association d'éducation populaire qui s'occupait notamment de centres de loisirs, de diffuser de la littérature jeunesse. Et en fait, j'ai été chargé pendant 2 ans de diffuser un magazine qui était une grande diffusion dans les écoles. Ça, c'était pour mon activité civile. Mais on avait, enfin moi j'étais à Beauvais, dans l'Oise, et en fait on était à peu près une quinzaine d'objecteurs de conscience sur le secteur, et donc on a continué à avoir une action militante importante autour de la non-violence, autour de la lutte contre le nucléaire, contre... En fait, je pourrais dire aujourd'hui, bien que je ne suis pas du tout mobilisé au niveau de la ZAD à Nantes, mais qu'on retrouve ce type de combat. C'est un mouvement très politique, l'objection de conscience, à la fin des années 70, au début des années 80, c'était assez politique. Alors, c'était pas du tout pour des motifs religieux, ce qui me concernait. C'était plus pour des raisons politiques et philosophiques, et c'est ce que j'ai défendu sur le fait que je ne voulais pas utiliser d'armes, que je ne voulais pas entrer dans un système de violence et de... pour être amené éventuellement à apprendre à tuer ou éventuellement être à un moment donné mobilisé, etc. Et donc, il était pour moi inenvisageable de pouvoir m'engager dans une préparation de militaires qui potentiellement à un moment donné pouvaient être mobilisés et que donc j'acceptais de faire tout service civil, y compris en temps de guerre s'il fallait, mais en tout cas en ne portant pas les armes.
Merci beaucoup Cathy. On l'a compris, l'objection de conscience est avant tout un acte, une revendication, on pourrait dire, personnelle. En quoi est-ce qu'on peut l'indistinguer de l'insoumission, Pierre Leroux ?
C'est toujours, enfin, les questions des frontières est toujours une question extrêmement compliquée. Mais si vous voulez, ce qu'on vient d'entendre, il y a le fait que quelqu'un revendique et théorise sa propre position par rapport à quelque chose. Et j'étais en train de penser à ça en écoutant. Il faut savoir que jusqu'à quasiment plus de la moitié d'une classe d'âge pouvait échapper au service militaire. Je crois que c'était même plus à la fin parce qu'on réformait beaucoup. Et c'est très différent de faire une démarche pour échapper au service militaire pour des raisons médicales, enfin, etc. Toutes les combines existaient et étaient bien connues. Et ils étaient diffusés au sein des mêmes milieux qui éventuellement prenaient l'objection. Mais être objecteur, c'était très différent. Et il y avait même des degrés dans l'objection, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui refusaient aussi d'être... certains objecteurs étaient affectés aux eaux et forêts, par exemple, qui refusaient de servir quelque chose qui était pour l'État, de devenir une sorte d'agent de l'État. Et on voit bien que derrière, il y a une position philosophique et théorisée. Mais il y avait aussi derrière, ça a été dit, hein, le soutien global de groupes, d'idées, de mouvements d'idées qui ne faisaient que théoriser eux-mêmes et produire des armes intellectuelles pour penser sa position d'objecteur.
Alors Henri-David Thoreau, donc, qu'on a évoqué tout à l'heure, lui a théorisé la désobéissance civile. C'était donc un objecteur de conscience ?
Oui, bien sûr. C'est lui qui écrit le premier ouvrage sur la question. Et on retrouve des sources de la désobéissance civile avant. C'est-à-dire qu'il y a des sources historiques où à des moments, des gens, même en droit romain, je crois que ça existait, des gens considèrent que il y a un moment où les lois ne s'imposent pas à tous. Hein. Alors, c'est important de remarquer que dans la désobéissance civile, on remet en cause quelque chose sans remettre en cause le système. C'est-à-dire que ce n'est pas un acte antidémocratique, c'est un acte qui dit la démocratie, elle s'articule avec des pratiques de revendication, de juste loi, on pourrait dire. Et il y a des lois injustes, donc je me situe par rapport à ces lois injustes. Et c'est des théories qui sont autour de questions du bien commun le plus souvent. C'est-à-dire à quel moment une loi ne satisfait pas à cette théorie du bien commun, du bien pour tous.
Adrien Behm est donc bel et bien un objecteur, mais pas un objecteur de conscience, c'est ce que vous disiez tout à l'heure.
Personne ne sait pourquoi il rendait copie blanche, et on ne sait pas si lui-même le sait, en fait. Et c'est vraiment ça qu'il place à un endroit un peu particulier, et l'hypothèse qu'on fait avec le spectacle, c'est de dire que le fait qu'il n'y ait pas d'explication, peut-être que c'est plus déstabilisant pour l'ordre établi. C'est-à-dire que le système, en l'occurrence là c'est ce système scolaire, peut intégrer des rébellions, peut intégrer des revendications, des révoltes, mais que s'il n'y a pas d'explication, si personne n'a d'explication, c'est peut-être plus déstabilisant parce qu'on ne sait pas quoi faire de ça. Et donc l'hypothèse que fait le spectacle, c'est d'essayer de mettre en jeu ça, de mettre en jeu cette chose qui échappe, en fait, qui échappe à tous.
No one's slave, I am no one's master. No one's slave, I am no one's master. On my grave, they will write this after I am gone. I will be gone, and then my flesh will go to the earth it lived on. Breath will go to the air it lived from. I am through with the shame of my lying. I've had my fill of the cruelty and crying. Earned my keep in the land where the dying deserts grow. Listening up.
Retour au Labo des Savoirs où l'on vient d'écouter No One Slaves, No One's Master du groupe britannique Seize the Day. Alors que la désobéissance civile est vaine dans un régime autoritaire, beaucoup de théoriciens ou d'acteurs de ce mode d'action y voient une valeur ajoutée à la démocratie en permettant d'éclairer la majorité silencieuse lors de dérives dans son fonctionnement. Ce serait ainsi un moyen de régénérer la démocratie et de la renforcer en revenant à ses principes fondamentaux. Marie David, dans son fonctionnement, l'école s'apparente plus à un régime totalitaire ou à un régime démocratique ?
Je suis pas sûre que la question se pose en ces termes. Il n'y a pas vraiment de régime politique à l'école, en œuvre à l'école. Par contre, il y a un objectif affiché dans les textes institutionnels qui est d'apprendre la démocratie aux élèves, de leur apprendre la citoyenneté, de leur apprendre le fonctionnement démocratique. Mais ça veut pas dire que tout le fonctionnement de l'école est pensé pour être démocratique. Alors il y a des choses paradoxales, on pourrait penser que comme le professeur a autorité dans la classe, il se conduit en tyran et les élèves n'ont pas leur mot à dire. Mais en réalité, apprendre la démocratie dans la classe, c'est aussi reconnaître l'autorité du professeur dans le sens où il a une position institutionnelle, où il est censé détenir le savoir, le transmettre, etc. Et où les élèves n'ont pas la capacité de contester cette autorité qui repose sur le savoir. Donc c'est un petit peu paradoxal. Mais le fait de ne pas pouvoir contester l'autorité du professeur, enfin l'autorité qui repose sur le savoir, c'est aussi une manière d'apprendre la démocratie, c'est-à-dire la place de chacun dans les institutions et sur quoi cette place repose. C'est ce qu'on peut appeler la légitimité, hein, et une légitimité particulière parce que justement elle repose sur des institutions qui sont stables. L'autorité du professeur, elle est supposée être reconnue parce que c'est un professeur et pas parce qu'il est particulièrement charismatique ou sympathique ou beau ou gros et impressionnant, etc.
Alors du coup, comment est-ce qu'on peut jauger l'utilité ou la légitimité justement de l'action ou plutôt de la non-action de BEM ?
Enfin l'inaction ou plutôt le fait qu'il rende des copies blanches, on ne sait pas dans la pièce si effectivement il le fait d'une manière consciente, intentionnelle, quelles sont ses idées, etc. Ça ne paraît pas être un acte revendicatif, en tout cas il n'est pas présenté comme tel, mais ça met en cause évidemment la légitimité du travail scolaire qui est demandé par les enseignants. Donc ça vient questionner la norme du travail scolaire et d'une certaine manière ça vient questionner tout le sens de ce qu'on fait à l'école.
Dans la pièce, on nous présente BEM d'une telle façon qu'à aucun moment on envisage le fait que ça pourrait simplement être un feignant. C'est quoi la différence entre un mauvais élève ou un objecteur ?
À mon avis, il y a deux manières de regarder les choses. Il y a on pourrait se poser la question du point de vue de l'élève lui-même, c'est-à-dire du point de vue de ses intentions. Mais dans la pièce, on ne peut pas savoir quelles sont les intentions de BEM. Et d'une manière générale, d'ailleurs, dans l'institution scolaire, on ne connaît pas vraiment les intentions des élèves. On peut observer ce qu'ils font ou éventuellement ce qu'ils ne font pas. Et donc du côté des professeurs, du chef d'établissement, de la vie scolaire, hein, le CPE, etc., du côté des parents, on a besoin de catégoriser et on a besoin de trouver une explication et des frontières, c'est-à-dire cet élève-là, il est feignant, il est paresseux, cet élève-là, il est limité. Alors quand on dit limité dans l'institution scolaire, ça veut dire bête, mais en langage policé. Il a un problème médical, ça c'est aussi une catégorie qui est pas mal, qui est intéressante, ou alors il est perturbateur, c'est ce qui correspondrait peut-être le mieux à l'idée de désobéir, d'objecter, etc. Donc tout le travail de l'institution scolaire, c'est de réussir à classer les élèves dans telle et telle catégorie. Et le problème de cet élève-là, c'est qu'on ne sait pas très bien où le placer. Donc la question des frontières, à mon avis, elle se pose dans les interactions avec toute cette catégorie d'acteurs. Et en fait, c'est la manière dont les professeurs, les parents, etc. vont réagir qui place l'élève dans telle et telle catégorie.
Adrien Béhel, est-ce qu'on peut dire que vous avez construit votre pièce, à la fois dans son sujet et peut-être bien dans sa forme, comme une allégorie de la société ou du système politique ?
Oui, en tout cas, c'est sûr que le choix de l'école, c'était vraiment la volonté d'avoir une sorte de mini-société dans laquelle une multiplicité de points de vue peuvent être en présence et peuvent être représentés. Et effectivement, quelque part, les rapports entre les personnages dans la pièce sont transposables dans, à mon avis, dans un autre contexte que celui de l'école. Donc oui, quelque part, oui.
Oui, Marie-David parlait de classification, de mettre les gens dans des cases. Mm-hmm. C'est effectivement quelque chose qu'on retrouve. Est-ce que vous considérez que dire non au milieu d'une classe, en l'occurrence, qui se plie aux règles, c'est une façon de rejeter un peu le formatage auquel on est soumis quand on suit le système éducatif tel qu'il est proposé aujourd'hui?
Certainement, en tout cas, oui, il y a un refus. Il y a un refus de ce formatage, de cette norme. Après, ce qu'on essaye d'interroger, c'est qui a besoin de la norme, en fait. Est-ce que, par exemple, dans cette micro-société qu'est l'école, qui a besoin de la norme? Est-ce que ce sont les enseignants, le proviseur, qui sont les garants de cette petite institution à cette échelle-là? Est-ce que ce sont les parents? Est-ce que les élèves eux-mêmes ont besoin? Et donc, quand quelqu'un produit un écart, ce qui est le cas avec cette copie blanche de BEM, est-ce que ça produit chez nous un appel vers la possibilité de faire sauter un peu les cadres, ou au contraire un désir très très fort de maintien de l'ordre et de d'étouffement de ce cas particulier? Si on a fait ce spectacle, c'est parce que, et si on l'a travaillé de cette manière, c'est parce que l'endroit qu'on choisit, c'est l'endroit qui, en chacun de nous, quand je dis en chacun de nous, c'est-à-dire ceux qui avons fait le spectacle, est un endroit de tiraillement.
On va s'écouter un deuxième extrait.
Tu veux me parler?
Oui.
Eh bien, je t'écoute.
Je voulais vous voir parce que Ben est deuxième.
Oui, Ben est deuxième. Tout à fait. Non, je veux prendre de mon temps pour parler avec toi de choses qui te concernent, qui te préoccupent, mais pas d'un autre élève.
Je ne trouve pas ça normal.
Que Ben soit deuxième, tu trouves pas ça normal?
Oui, j'ai des camarades qui travaillent mieux que lui et qui sont quatrième, onzième, quinzième et dix-septième.
Mais toi, tu te situes comment dans la classe?
Bien.
Oui, bien, c'est ce qui me semble. C'est-à-dire, tu es
premier.
Bon, il faut bien qu'il y en ait un qui soit deuxième, je vois pas encore.
Oui, mais lui, il est deuxième. Il rend rien.
D'accord, donc en fait, tu viens remettre en cause l'autorité des professeurs. C'est ça, tu penses qu'on fait mal notre travail? Non? Tu penses qu'on est trop indulgent qu'on corrige mal toi? Tu peux peut-être corriger et copier notre place?
Ça, simplement.
Simplement quoi? Je t'écoute.
21 octobre, allemand, rien. 23 octobre, mathématiques, rien. 9 novembre, physique, rien. 16 novembre, biologie, rien. 1er décembre, anglais, rien.
Qu'est-ce qu'il y a de tes camarades? Non. Non? Alors qu'est-ce que c'est ça?
Ce sont des observations personnelles.
Alors dans cet extrait, on vient d'entendre le cri de détresse de ce premier de la classe qui ne trouve pas ça juste, finalement, que BEM se retrouve second sans rien faire. Bon, il n'est pas très sympathique, ce personnage, dans la pièce. On n'a pas trop d'empathie pour lui.
Ouais,
c'est un peu le faillot.
C'est un peu le faillot, mais quand on répétait le spectacle, il était beaucoup, beaucoup plus antipathique et j'ai demandé à l'acteur d'en enlever. Moi, en fait, c'est un personnage qui me touche beaucoup parce que, quelque part... son désir de justice, je le comprends, en fait. Et du coup, cette scène avec la prof, c'est une espèce d'affrontement sur la question de la morale et du côté de la prof, par exemple, une capacité de déploiement d'une grande, grande mauvaise foi au service, si on se place à l'échelle du spectacle, du respect de cet acte particulier qui est l'acte de BEM, etc. Mais donc on peut considérer de ce point de vue-là qu'elle fait ça par conscience morale, et en même temps cette morale-là, elle peut être complètement retournée par le point de vue de cet élève qui veut faire jaillir la vérité.
Donc on peut objecter l'objection, finalement.
Exactement. Alors ça, oui. En tout cas, le spectacle essaye de de produire en permanence des situations qui mettent les personnages face à la possibilité d'objecter. On essaye qu'à chaque instant, pas du tout seulement BEM, mais tous les personnages aient la possibilité de suivre ou d'objecter.
Alors, je ne sais pas si vous le saviez, mais la désobéissance civile, ça s'apprend, notamment par le biais de stages, c'est vrai, sur des luttes comme celle de la ferme des 1000 vaches dans la Somme. Est-ce que l'école devrait nous apprendre à désobéir au même titre qu'elle nous apprend à obéir?
Dans les missions de l'école, il y a l'apprentissage de l'esprit critique et c'est un vaste chantier. C'est-à-dire la capacité à mettre des situations en relation et à exercer un jugement dessus. Et à partir du moment où on considère que c'est important de pouvoir porter un jugement, ça veut dire aussi qu'on suppose que les élèves ont la liberté d'adhérer ou de ne pas adhérer. Donc ça a beaucoup d'enjeux. Effectivement, on pourrait considérer qu'un des enjeux, c'est de leur apprendre à désobéir, à reconnaître des situations qu'ils ne partagent pas, et donc à pouvoir dire non. Cela dit, il y a peu de possibilités de mettre en pratique dans l'école. C'est-à-dire que désobéir dans l'école, c'est toujours s'exposer à des sanctions, au sens très large, c'est-à-dire une réprimande, une punition, un regard désapprobateur, etc. Et la sanction, elle peut venir et des professeurs, on y pense évidemment, mais aussi des autres élèves.
Est-ce que la désobéissance civile, justement, c'est pas aussi accepter le fait d'être sanctionné pour les autres, parfois?
Oui, sans doute. On peut même aller à chercher la sanction. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui attendent de voir quelle sera la réponse des professeurs, ou d'ailleurs des enfants qui attendent de voir quelle sera la réponse des parents, pour vérifier une norme ou pour mettre la norme en question.
Pierre Leroux, vous diriez que c'est désobéir, ou du moins savoir désobéir, c'est plutôt un droit ou plutôt un devoir?
Ça dépend beaucoup par rapport à quoi et qu'est-ce qu'on met en cause et comment. C'est-à-dire que ce qu'on voit assez bien dans la pièce, c'est que finalement, y compris, vous l'avez tout à fait précisé de manière tout à fait pertinente, c'est qu'en fait, chacun a la possibilité, donc a un choix. Mais en même temps, on peut revendiquer, par exemple, l'attitude du personnage dont on vient de parler. Elle est un rappel à l'ordre social tout à fait légitime. Après tout, finalement, ce classement en tant que premier de quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est tout à fait légitime. Et ces classements-là, on les accepte la plupart du temps sans rien dire. On a toujours envie d'être le premier de quelque chose, quoi. Enfin, en tout cas, on est un peu éduqué comme ça. Et par rapport à une revendication légitime, de différents personnages à différents moments, la question de l'objection se pose, mais elle se pose dans la pièce de manière assez individuelle. Alors que, comme nous sommes des êtres sociaux, on peut se dire que dans le cas de la désobéissance civile, c'est la même question, mais à l'échelon d'une société. Et dans nos sociétés, en fait, on peut très facilement échapper à ses responsabilités. La forte division du travail, et on le voit bien dans la pièce, puisque la pièce tourne autour de ça, ces changements de rôle, la forte division du travail fait que on peut assez facilement éviter d'aller jusqu'au bout du questionnement de sa propre position. Et la pièce questionne ça. Elle dit, si on se questionne jusqu'au bout, jusqu'où on va? Et on va vers quelque chose, en tout cas la pièce le montre très bien, qui est très déstabilisant à chaque fois, déstabilisant personnellement, et jusqu'à la déstabilisation sociale, qui n'est pas l'enjeu de la pièce, mais qu'on peut imaginer en arrière-plan dans les cas de désobéissance civile.
Pierre Charrier, vous êtes doctorant, vous avez des choses à dire.
Oui, j'en ai gros, et puis j'en profite. On parle d'objection, de désobéissance, de refus de suivre certaines règles. Je me suis dit que c'était le moment de vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. C'est à propos de la curiosité, et surtout de ma perception du profond mépris de cette curiosité, de ce besoin de voir un intérêt à tout, une utilité à court terme à tout ce que l'on entreprend. Nos managers sociétaux ont décidé que les métriques suprêmes de ce monde devaient être la rentabilité, la croissance, la productivité. Alors, la science, elle aussi, se transforme. De support créatif, émulateur de curiosité, ciment d'un savoir, c'est devenu un moteur du progrès. Oui, le progrès. Vers quoi, comment, pour qui, le programme est flou. Et une des conséquences de ce besoin de résultats quantifiables, c'est une science sur projet, une catastrophe. Valorisation de l'excellence par appel d'offres, projet ultra compétitif à fort potentiel novateur, fort rayonnement, forte attractivité, innovation, partenariat, interdisciplinarité, aura international, cocorico. Les recherches doivent être appliquées, finalisées avec des grandes réponses à des grandes questions sur de courtes périodes et si possible, rentables. et c'est encore mieux en créant des partenariats avec des entreprises. La curiosité n'est plus. Notre monde s'emballe, la science aussi, c'est pas une raison pour quitter le navire. Il faut trouver comment mettre des voiles et arrêter les moteurs si bruyants, si polluants. Science responsable, slow science, open access, initiative pirate de mise à disposition pour le plus grand nombre de toute la littérature scientifique, les initiatives émergent. Slow science, ça ne veut pas dire faire moins, ça veut dire faire mieux, ça veut dire prendre le temps de bien faire, d'explorer des paysages inconnus et sans intérêt. Ce n'est pas creuser tous ensemble au même endroit. Alors je veux vous parler de Jérôme, un curieux personnage, un curieux tout court. Jérôme a un intérêt, une passion, une curiosité, je ne sais pas comment dire, en bref, il kiffe les fourmis. Jérôme est curieux, il aime apprendre, découvrir, comprendre, se poser des questions et chercher à y répondre. Comme 73% des gens en Europe, Jérôme vit en ville. Et ce qu'il étudie tout naturellement, c'est les fourmis en ville. Jérôme fait partie des 35 482 étudiants préparant un doctorat en France en 2014-2015, chiffre du ministère de l'Éducation nationale, et fait partie des 5,2% d'étudiants d'origine sociale de la classe ouvrière. Oui, oui, le mythe de l'égalité des chances, vous connaissez, je voulais juste l'illustrer une fois de plus. Jérôme s'émerveille devant les milieux d'espèces de fourmis différentes, leur capacité de colonisation de l'espace incroyable. Les fourmis vivent en ville, au milieu des mégots et des métaux lourds, des hydrocarbures et des déchets. De formidables architectes, elles vivent aussi en groupe. Leurs observations sont source de nombreuses questions. Jérôme a obtenu une bourse pour mener des recherches sur les fourmis en ville et préparer son doctorat. Des gens ont cru en lui, en son sérieux, en sa curiosité. Il participe à la compréhension des liens entre l'humain, les villes, la biodiversité. Sans brevet, sans intérêt à court terme, sans finalité, il observe les conséquences de la ville sur ses espèces qu'il étudie. Leurs réponses, les conséquences sur l'évolution de ces espèces, le lien entre transport et capacité de dispersion. Et tout ça simplement par curiosité et parce que la communauté scientifique internationale est aussi curieuse à ce sujet-là. Je lui souhaite le meilleur pour la dernière ligne droite et encore plus pour la suite vu la précarité qu'attendent les jeunes chercheurs. Je lui souhaite bien du courage. Franchement, le mec qui a inventé le microscope, il l'a pas fait pour le brevet. Je suis pas sûr non plus qu'il y voyait un intérêt autre que pouvoir observer ce que l'on ne pouvait jusqu'alors pas voir. Le moteur, c'est la curiosité. Comment un tas de cellules finit-il par devenir le gamin qui sourit et qui pleure? Qu'est-ce qui a déclenché les pleurs de l'enfant? Quelle différence y a-t-il entre un cri et un pleur? On se rend vite compte que le monde est complexe, même vu des bords si étroits de nos esprits. Ce volcan, en devenant un témoin de la dynamique géologique souterraine, quitte son statut transcendant, perd-il de sa superbe? En est-il moins émerveillant? Ce n'est pas mon avis. On devient humble devant l'énergie dégagée par ces forces du monde qui nous dépassent. La curiosité, ce n'est pas chercher un sens aux choses, c'est chercher à comprendre comment elles interagissent. On cherche à comprendre comment, pas pourquoi. Le pourquoi est plus du ressort de la spiritualité ou des croyances. La curiosité est une arme contre l'obscurantisme et l'intolérance, une arme contre la dictatrice de la norme. Se poser des questions, c'est une lutte. Nous avons de plus en plus besoin de liens entre nous et la curiosité est un lien. Je salue alors ici tous les porteurs de parole, ceux qui réinvestissent l'espace public, ceux qui suscitent l'intérêt, ceux qui n'apportent pas de réponse mais laissent une marque bien plus indélébile, le questionnement, la curiosité, l'envie de comprendre, d'agir, de débattre, d'écouter l'autre. Je salue tous ceux qui font des choses improductives, toutes les cigales, ces inutiles de nos sociétés optimisées. Mes derniers mots à tous ceux qui cherchent, des chercheurs qui trouvent, qui en ont marre de trouver des chercheurs qui cherchent. Eh ben, soyez vous-même un peu curieux, on en a tous besoin, et laissez ceux qui le sont en paix. Donnez-leur les moyens d'y arriver. Parce que je ne veux pas jouer ce jeu, je ne crois pas dans un progrès vers lequel on irait consciemment, que je suis curieux, que je crois en l'importance de la curiosité et que l'éthique devrait primer sur l'intérêt sans le servir. Je voudrais être une grosse vague qui emporte tout sur son passage et que vous qui m'écoutiez, vous vous posiez des questions inutiles sur tout et sur n'importe quoi. Être curieux est contagieux et c'est une belle maladie.
Merci beaucoup Pierre pour cette chronique en forme de billet d'humeur, on peut le dire.
C'est le labo des savoirs.
On évoquait tout à l'heure Gandhi et Martin Luther King en introduction. On aurait pu également citer les actions régulières de Greenpeace contre les déchets nucléaires. Ça, ce sont des combats finalement qu'on pourrait dire ciblés, qui durent dans le temps. Et puis il y a aussi des mouvements un peu plus diffus, plus intemporels, comme l'altermondialisme ou le pacifisme. Donc la désobéissance civile, c'est plus qu'une simple action, c'est aussi un état d'esprit.
C'est un mode d'action, de mobilisation, et quand vous parlez de mouvement, d'organisation, d'association, en fait, sur le long terme, à certains moments, ils utilisent cette action de cette façon-là. C'est-à-dire, ils quelque part, ils théorisent un peu, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est, par exemple, Greenpeace est tout à fait en pointe pour ça, fait des actions qui sont symboliquement fortes. Alors, vous allez me dire, quand un bateau poursuit une baleinière au milieu d'un océan, bah, il faut des caméras, il faut quelque chose qui, aujourd'hui, le principe qui est présent dans la désobéissance civile, le principe de publicité, hein, au sens de rendre public, qui a toujours été important. Ça va de soi qu'on rend public son action, qu'on dit publiquement qu'on a réfléchi à ça et qu'on le fait pour ça. Mais aujourd'hui, dans un univers où les médias ont une place, très banal de dire ça, mais une place très importante, les gens qui, dans les associations, font des actions comme ça, de désobéissance civile, à certains moments, sont des actions très ciblées, des coups d'éclat. Ce ne sont pas forcément des actions permanente sur le long terme, parce qu'on ne peut pas être visible sur le long terme. Donc, par exemple, les souvenirs qu'on peut garder de quelques actions de Greenpeace sont autour de quelques coups d'éclat qui montrent qu'ils sont formidablement organisés symboliquement pour mettre en scène, par exemple, le Zodiac, petit bateau faible face au harpon des baleiniers, par exemple, pour le cas de la chasse à la baleine, des bateaux japonais. Et en fait, c'est bien fait pour ça, c'est-à-dire c'est une très forte mise en scène, mais cela dit, ce n'est qu'une partie de l'action Greenpeace qui par ailleurs peut avoir une action institutionnelle forte auprès du politique, etc. Et donc l'objection civile, c'est un temps et une illustration forte aussi pour la société, quoi.
Et donc c'est pas uniquement refuser, c'est aussi proposer des solutions.
C'est d'une certaine façon, à un certain moment, c'est dire alerter, c'est alerter sur un problème. C'est surtout ça. Dans le principe de publicité, il n'y a pas de solution. Enfin, je veux dire, par exemple, le cas que j'ai pris est peut-être pas très bon. C'est-à-dire qu'on voit très bien que lutter contre les baleinières, c'est demander la fin de la chasse à la baleine. Ça va de soi, ou la pêche, je sais pas comment on dit. Mais quelquefois, c'est simplement poser une question, poser publiquement une question, poser publiquement la question de lois qui sont, semble-t-il, injustes. Par exemple, faucher les OGM, c'est poser la question de, par exemple, du brevetage du vivant, etc. Il y a tout un ensemble de choses derrière. Les questions ne sont pas posées dans l'action elle-même, mais très souvent, la médiatisation permet après d'expliquer, hein, des interviews, etc. Hein, c'est en ça que dans nos société, c'est l'écho donné qui est important.
Ouais. Alors, vous parlez de médiatisation, il y a un mouvement qui récemment a eu beaucoup de médiatisation, c'est le mouvement Nuit Debout. Est-ce que c'est un mouvement de désobéissance civile ?
La finalité n'était pas en soi d'occuper le lieu, la finalité c'était de proposer un ensemble de réflexions collectives sur la démocratie. Et peut-être qu'à l'intérieur, dans l'émergence des idées, il y avait des idées de désobéissance civile. Je pense que la finalité de Nuit Debout, c'était de dire... Il est possible aujourd'hui de discuter ensemble, d'avoir des lieux d'échange sur le fonctionnement ordinaire, on va dire, de la démocratie et la place que les citoyens y occupent. La désobéissance civile, elle dit, on n'a pas donné un chèque en blanc dans la démocratie quand on votait. Elle dit, on a le droit d'intervenir ponctuellement pour dire finalement cette loi qui a été votée par nos représentants de la démocratie est légitime, hein, de la démocratie représentative, eh bien à un certain moment, on ne les suit pas. Et dans les questions complexes qui sont abordés aujourd'hui, comme la question des OGM, qui est la question du brevetage du vivant, eh bien, c'est une question extrêmement ambitieuse, en fait. C'est là qu'on s'aperçoit que ces actes qui ne sont pas grand-chose, on va faucher un champ, ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup par rapport à la grande question qu'ils posent.
Rosa Rosa par Otis Taylor, morceau de 2003 qui est aussi un hommage à une autre figure emblématique de la désobéissance civile puisqu'il s'agit de Rosa Parks.
C'est le Labo des Savoirs.
Entre l'incapacité viscérale de faire ce que l'on nous demande, le courage et la détermination nécessaires, tout le monde ne saurait être un leader de la désobéissance. De Gandhi, encore une fois, c'est vrai, je l'aime bien ce Gandhi, à Edward Snowden, ils sont nombreux à avoir marqué les esprits, mais beaucoup d'autres, la plupart finalement, agissent de façon plus localisée et dans un relatif anonymat. Le tout étant d'être cohérent entre ce que l'on pense et ce que l'on fait, une chose pas si aisée que ça, dans un monde régi par le droit. Ne pas faire quand tout le monde fait, dire non quand tout le monde ou presque dit oui, c'est assumer de penser différemment. Un esprit libre, critique, qui se place au-dessus des autres, c'est nécessaire pour passer de l'objection à la désobéissance civile, Pierre Leroux ?
Oui, parce que ça part d'une grande... Il faut une certaine lucidité pour construire une position de désobéissance. Il faut avoir un esprit critique et il faut, au-delà de l'esprit critique, au-delà de la simple du renvoi de remarques sur quelque chose, une critique du fonctionnement, il y a une construction de sa propre position. Et c'est là que ça devient beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire le choix du mode d'action n'est pas simple. Dans la pièce, par exemple, c'est ça qui est intéressant, ne pas rendre une copie, c'est rien en fait, mais il fallait trouver, et c'est quelquefois aujourd'hui on parlait d'associations qui se servent de ça, ces associations sont quelquefois extrêmement douées, hein, elles ont des gens qui sont très forts en communication pour choisir des types d'actions qui vont résumer en fait leurs propos, qui vont être très fortes et auxquelles ils peuvent se tenir longtemps, et qui finalement aussi les sanctions quelquefois du point de vue de la loi sont un petit peu ridicules. Il va falloir faire appliquer la loi, et c'est prendre certains risques déterminants pour que la loi intervienne et qu'elle mette en scène sa propre impuissance ou sa propre vacuité, on pourrait dire.
Alain Ruffalo est connu pour avoir participé au lancement du mouvement des enseignants désobéisseurs de l'école primaire avec la publication de sa lettre « En conscience, je refuse d'obéir » adressée à son inspecteur le 6 novembre 2008. C'est un mouvement de résistance pédagogique inédit dans son ampleur. 3000 enseignants désobéisseurs, c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque. C'était alors développé contre les réformes du gouvernement initiées par le ministre de l'Éducation nationale, Xavier Darcos. Alain Ruffalo donc parle de la désobéissance civile comme d'une radicalité constructive. Est-ce que vous êtes d'accord, Adrien Béhel ?
Est-ce que je suis d'accord avec ce monsieur ? En fait, j'ai envie de rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que là, il y a vraiment quelque chose qui a... J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a à voir avec ce que ça la communication et ce que ça génère comme débat derrière. Donc après, on peut considérer que le débat, est constructif. Mais c'est constructif parce que c'est à dessein et parce que c'est conscientisé, c'est pensé, etc.
Marie-David ?
Ce qui est particulier dans le mouvement des désobéisseurs chez les profs dans l'éducation nationale, c'est que alors il y a eu plusieurs formes. Il y a eu cette désobéissance qui était finalement une manière de désobéir à des injonctions pédagogiques. Là où justement les textes officiels proclament la liberté pédagogique des enseignants, c'est-à-dire que c'était une manière de désobéir à une règle qui n'était pas vraiment une règle, qui ne s'appliquait pas vraiment, hein. Alors c'est quelque chose d'un petit peu particulier. Alors évidemment, si on regarde précisément, les professeurs sont en réalité tenus par les inspecteurs, par les parents, etc., de respecter certaines méthodes pédagogiques, mais ils pourraient dire ah non, pas de ça chez moi, j'ai de la liberté pédagogique. Et là, ce qui a été choisi, c'est plutôt un mouvement de désobéissance. Je pense qu'on peut faire l'hypothèse que c'était justement pour rendre public leur désaccord et pour témoigner de d'autres choix ou d'autres conceptions pédagogiques. Alors, il y a eu ces dernières années d'autres formes de désobéissance chez les enseignants. Et je pense notamment à un mouvement qui a été... il y a eu un frémissement en Loire-Atlantique, c'était la désobéissance contre le fichage des élèves avec un logiciel qui s'appelle Base Élèves et qui permettait de recenser l'ensemble des enfants et en particulier donner des informations sur leur famille. Des enseignants, des directeurs, directrices d'école ont refusé de remplir ce fichier. Et là, c'était... plus précisément un mouvement ou plus proprement parler un mouvement de désobéissance, puisque là il y avait bien une prescription institutionnelle et d'ailleurs il y a des directeurs d'école qui ont été sanctionnés pour cette désobéissance. Le mouvement s'est éteint petit à petit.
Est-ce déraisonnable de désobéir à la loi? D'ailleurs, le refus s'accompagne-t-il nécessairement de transgression, Pauline Verbaenen?
Vivant en démocratie dans une société cadrée par des lois, nous disposons de droits tels que le droit à l'information, au respect de la vie privée, le droit de participer à l'élection de nos représentants ou encore de se présenter en tant que candidat à la présidence de la République française. Ce sont des droits positifs établis par des textes. Mais, en tant qu'être humain, nous pouvons aussi revendiquer nos droits naturels. Être libre, avoir un toit au-dessus de la tête, manger pour vivre, etc. La distinction entre ces deux formes de droits est analogue à la distinction entre légalité et légitimité. Quand la légalité est le caractère de ce qui est conforme aux lois, la légitimité prend un sens plus large et est fondée non seulement sur les textes de loi, mais aussi sur l'éthique, la morale ou le besoin. Voler est un acte illégal. Voler de la nourriture quand on a besoin de se nourrir est un acte légitime. Au sortir de l'enfance, à notre majorité, on devient responsable de nous-mêmes aux yeux de la loi. Alors, nos décisions et nos prises de position nous engagent. Objecter une loi peut alors amener à se trouver soi-même à la limite de la légalité, voire en dehors. Or, il est de notre devoir, pour faire fonctionner la démocratie, de contester les injustices ou les manquements au respect des droits de chacun. Pour ce faire, et considérant que l'arsenal des méthodes classiques type débat, négociation, pétition, manifestation est souvent inefficace, on se tourne vers l'action contestataire tout en restant dans la non-violence, bien évidemment, pour obtenir gain de cause. On se trouve alors être légitime dans notre objection, mais possiblement condamnable dans nos actions. Où se trouve alors la frontière légalité-légitimité? Que risque-t-on en défendant nos idées? Les cas sont innombrables et tous différents. Parfois, le franchissement des lois n'est pas très clair et dépend de la réaction des tiers impactés. On peut citer le mouvement des Femmes, qui défend les droits des femmes et les causes liées. En 2015, lors du Grand Prix de Montréal, une des activistes a fait une intervention très remarquée sur fond de lutte contre la prostitution à grand renfort de seins nus sur une voiture de course. Pour cette action non violente mais dérangeante, elle a été inculpée pour exhibition, désordre et détérioration. Lors du procès qui s'est tenu le 30 novembre dernier, les charges liées à sa nudité ont été abandonnées. Reste à juger la culpabilité pour les dégâts matériels de la jeune activiste. La suite en février, mais en attendant, Neda Topalowska, porte-parole du mouvement, déclare que ce procès est un test de démocratie. Certains actes, en revanche, sont délibérément transgressifs. En France, pour un graffiti, qui est une infraction, on risque entre 1500 euros et 30 000 euros d'amende et jusqu'à 2 ans de prison si les détériorations sont jugées graves. Dans certains pays, comme c'est le cas actuellement pour 2 jeunes hommes en Azerbaïdjan, le risque peut être largement supérieur. Ils auraient été maltraités, forcés de faire des fausses déclarations et risquent maintenant 12 ans de prison. C'est un grand écart de sanctions pour un même acte. Au-delà de ces actions contestataires, certaines causes nécessitent la transgression directe des lois désapprouvées. On est dans la désobéissance civile, dans le refus d'obéir à des règles qui ne respectent pas les droits universels. On peut citer Rosa Parks, qui a agi en toute conscience des conséquences et dont l'acte illégal a été un élément déclencheur d'un mouvement plus large, le mouvement des droits civiques, qui a mené à l'abolition des lois de ségrégation raciale jugées a posteriori anticonstitutionnelles. C'est une belle victoire de légitimité. On peut prendre un exemple plus contemporain. Et pour ça, j'aimerais vous parler d'un collectif d'artistes et activistes de Berlin, le collectif Peng. Toujours dans la non-violence et le spectaculaire, il dénonce la barbarie de notre époque. Particulièrement remontés contre la politique migratoire européenne, ils invitent, dans un spot publicitaire largement diffusé, je crois, les citoyens allemands et européens à désobéir et aider les réfugiés de guerre à passer les frontières. Cet acte constitue un délit et ils le répètent. Mais, en toute transparence, le collectif dispense des conseils pour éviter les contrôles et s'engage à prendre en charge les suites judiciaires liées à d'éventuelles arrestations. En parallèle de cette belle action humaine, un des activistes du collectif a appuyé son engagement en réagissant par un entartage en bonne et due forme aux propos scandaleux de Béatrix von Storck, membre de l'AFD, Alternative pour l'Allemagne, qui est un parti ultra-droite en Allemagne, à savoir ses propos sont les suivants. On peut tirer sur les migrants aux frontières, même les femmes et les enfants. Bon. On peut toujours tergiverser sur l'intégrité physique de l'entarté qui a dû être légèrement écorchée, mais personnellement, je pense que si certaines tartes se perdent, celle-ci était bien envoyée. Agir en âme et conscience, ça n'a pas de prix. C'est une chance que nous avons de vivre en démocratie et dans une démocratie au sein de laquelle on peut défendre la légitimité de nos actes. À nous de choisir ce que l'on en fait.
Merci beaucoup, Pauline. Adrien Bell, on est complètement sur la question que vous posez dans la pièce, à savoir coupable, pas coupable.
Oui, et aussi, enfin, dans la mesure où dans le spectacle, ce geste n'est pas revendiqué, il n'est pas prémédité même. Pour moi, coupable ou non coupable, donc qui effectivement la question qui est posée vers la fin du spectacle, c'est une question violente, mais c'est une question binaire. Alors que justement, l'endroit où se place l'objecteur du spectacle, BEM, c'est à l'écart du binaire quelque part. Enfin, et donc, c'est aussi, encore une fois, ça met en jeu aussi peut-être l'inadaptation d'un système à cet acte-là, enfin la rencontre, l'impossibilité de la rencontre. Et par ailleurs, c'est aussi un appel, c'est aussi l'occasion pour les élèves qui donc décident de se constituer en tribunal, de donner du poids à leur point de vue. Nous, ce qu'on se raconte avec les acteurs, c'est que c'est comme si c'était la première fois, c'est comme si c'était leur premier acte citoyen, ce débat et ce moment du vote pour décider, déterminer s'il est coupable ou non coupable.
Insoumission, objection, résistance, où sont les frontières, ces fameuses frontières, Pierre Leroux? Où commence, on va essayer de répondre à notre question initiale, où commence la désobéissance civile? Est-ce qu'on peut dire finalement que c'est un savant mélange de revendications personnelles, d'objections intelligentes et peut-être d'intérêts collectifs et surtout de non-violence?
La dimension collective est essentielle, la non-violence aussi, mais c'est une grande question parce que, en fait, est-ce qu'on accepte les atteintes aux biens, voire les atteintes aux personnes en représailles? Bon, ben, les faucheurs d'OGM, c'est une atteinte aux biens. Alors, vous voyez comment vous parlez de frontières, c'est la question la plus déterminante, c'est-à-dire est-ce qu'on doit se situer dans l'absolue non-violence? Qu'est-ce que ça engage aussi physiquement, hein? Il faut le savoir avant, hein? Ça peut aller... La loi, c'est une forme de répression auquel nous consentons. Nous n'avons jamais, le plus souvent, jamais affaire à la loi parce qu'on nous l'avons dans la tête, nous avons intériorisé. Or, dès lors qu'on ne suit pas le droit chemin, on s'expose à des sanctions qui peuvent être très très fortes. Un sit-in, par exemple, quand on refuse qu'il se passe telle chose à un endroit ou qu'on reçoive telle personne, ça finit par des choses très très brutales. Et en fait, à quel moment on va accepter cette brutalité en face? À quel moment aussi l'action symbolique qu'on veut mettre en scène publiquement, elle ne porte pas atteinte à des biens? Par exemple, démonter un McDonald's, on connaît bien cette histoire, le démonter symboliquement, c'était pas non plus y mettre le feu et le saccager, c'était dire qu'on a démonté cet endroit symbolique, hein, un seul en plus, hein, c'était pas s'attaquer au McDonald's. Et donc tous ces éléments, tous ces curseurs qu'on peut mettre, tout cet assemblage de choses, la publicité qu'on donne aux choses, la théorisation des choses, le type d'action et où on met le curseur dans l'espèce de résistance forte qu'on fait, c'est quelque chose qui détermine ce qui est, enfin, ces frontières de la désobéissance civile.
Refuser de bien faire, c'est donc résister, mais à quoi? À cette question, le pas de BEM n'apporte point de réponse établie. Chacun peut y aller de sa propre interprétation. Résistance naïve au système, refus de reproduction des normes ou encore incapacité revendiquée à satisfaire une attente. Quid du pointage?